nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voyons que le drame qui se joue durant la passion de notre Seigneur, c'est que Jésus meurt pour le salut des hommes et qu'un grand nombre d'entre eux ne veut pas en profiter. Il y a tout d'abord les pharisiens, les princes des prêtres qui refusent ouvertement et en toute connaissance, clairement, qui refusent Jésus-Christ parce qu'ils refusent le Messie. Le Messie, ce n'est pas Jésus, c'est eux. Il y a ensuite ceux qui refusent de suivre Jésus parce qu'ils sont dans leur péché. C'est le mauvais larron, c'est Judas, qui n'attendent pas un autre Messie que Jésus, mais qui par orgueil refusent de reconnaître leur péché et donc se condamne. Il y a ensuite la foule qui vient de reconnaître Jésus quelques jours avant et qui aujourd'hui demande sa mort, la foule qui est faible et qui fera pénitence après, qui reviendra vers Jésus, mais qui maintenant n'admet pas de le suivre. Et puis vous avez heureusement quelques fidèles. Il est probable que dans cette foule, certains se sont tus, que Joseph d'Arimathie, par exemple, n'a pas crié à mort avec les autres, encore que la pression devait être forte. Et puis il y a bien sûr la très sainte Vierge, qui, elle, est demeurée parfaitement en paix et n'a jamais douté un instant. Il faudra la venue du Saint-Esprit pour que les hommes comprennent. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de suivre Jésus, d'avoir les mêmes sentiments que lui. Le drame, ça n'est pas tellement la mort du Fils de Dieu. Le drame, c'est le péché. Lorsque Adam et Ève ont péché, le péché originel, Dieu a voulu unir la justice et la miséricorde. Chez nous, les hommes, il est très difficile d'unir la justice et la miséricorde. Quand on fait justice, on fait rarement miséricorde. Et quand on fait miséricorde, on ne rétablit pas la justice. Il n'y a qu'à le voir, lorsqu'un juge ne condamne pas un criminel, il fait une fausse miséricorde parce qu'il ne rétablit pas la justice, il ne rétablit pas l'ordre. Jésus-Christ a voulu rétablir l'ordre, Dieu a voulu rétablir l'ordre. Et qu'est-ce que l'ordre ? L'ordre, c'est la gloire de Dieu qui prime tout. L'ordre, c'est la majesté de Dieu à laquelle tous font référence. Et l'ordre, c'est peut-être plus encore l'amour de Dieu que Dieu nous communique pour que nous répondions à son amour par notre amour. Saint Jean dit « Dieu est amour ». Cet ordre a été bafoué par le péché et doit être restauré. Et notre Seigneur va se comporter en serviteur de Dieu. C'est l'épître aux Philippiens que nous avons lu. Il va se comporter en serviteur de Dieu. Il va rendre à Dieu le Père l'hommage parfait de l'homme parfait qui est en même temps Dieu. Et reste à savoir ceux qui suivront et ceux qui ne suivront pas. Je vous ai dit au début que saint Paul nous demandait d'avoir les mêmes sentiments que le Christ Jésus. Et là, nous voyons bien ce drame. Et donc Dieu nous passe au crible. Pourquoi nous passe-t-il au crible ? Pour faire éclater sa gloire, éclater sa puissance. Regardez par exemple saint Pierre. Saint Pierre a été passé au crible. Il est tombé, hélas. Et puis, il se relève. L'Évangile ne le raconte pas encore, ce n'est pas le moment. Mais nous savons bien qu'il va se relever. Alors, dites-moi, mes bien chers frères, quelle est la plus grande gloire de Dieu ? Si saint Pierre n'était pas tombé par fidélité, s'il était resté fidèle à Dieu et avait refusé de tomber, certainement cela aurait été une grande manifestation de la gloire de Dieu. Mais saint Pierre étant tombé, et Dieu étant assez bon et assez fort pour le sortir du péché et lui rendre l'amour, et un amour plus grand que celui qu'il avait avant. Puisque vous connaissez la scène au bord du lac de Tibériade, Pierre, m'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu plus que tout le monde. M'aimes-tu vraiment ? Et à chaque fois, Saint-Pierre répond, mais Seigneur, vous savez bien que je vous aime. Alors dites-moi, est-ce que cela n'a pas donné plus de gloire à Dieu ? Et donc Dieu passe au crible, non pas pour faire tomber, mais pour faire éclater sa gloire. Et il ne tiendrait qu'à nous d'être retenus dans le crible et de ne pas tomber. Mais voilà, beaucoup refusent de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est certainement la plus grande peine de Jésus-Christ que de voir que sa passion ne profitera pas à un grand nombre d'hommes. Non pas qu'ils ne tomberont pas, mais qu'après être tombés, ils ne se relèveront pas. Et pourquoi cela ? Parce qu'ils sont scandalisés. Ils sont scandalisés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous verrons cela après la résurrection. Notamment les pèlerins d'Emmaüs qui s'étonnent. Mais si cet homme était le Messie, pourquoi est-il mort ? Et s'il est mort, pourquoi ressuscite-t-il ? Et ça, c'est le premier crible. Enfin, il y en a eu trois de cribles. Il y a eu le premier avec Adam et Ève. Ce premier s'est terminé en désastre que Dieu a transformé en victoire. Bien heureuse faute, sans laquelle nous n'aurions pas eu le Rédempteur. Et quel Rédempteur ? Le Fils de Dieu lui-même. Il y a le deuxième crible, au moment de la passion de notre Seigneur. Les foules savaient qu'il était le Messie. Elles l'avaient vu faire des miracles. Elles croyaient en lui. Certes, les princes des prêtres et les pharisiens ne croyaient pas en lui, mais les foules croyaient en lui. Et d'ailleurs, les princes des prêtres étaient furieux de cette foi de la foule dans la messianité de Jésus. Et lorsque la foule voit notre Seigneur condamné par les princes des prêtres, amené, ligoté au tribunal de Pilate, elle commence à douter de la messianité. Lorsqu'elle le voit flagellé, elle doute encore plus de la messianité. Et sous la pression des princes des prêtres, elle crie à mort. Pourquoi cela ? Parce que n'ayant pas reçu le Saint-Esprit, Elle n'avait pas encore compris la grandeur du mystère de l'incarnation et de la rédemption. La grandeur de notre Seigneur qui s'humilie pour mettre mieux en valeur encore sa divinité. Le troisième crible, c'est le nôtre. Tout homme doit être criblé. Et ce crible, au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire de l'Église et des hommes qui refusent de plus en plus nombreux à croire en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ce crible va devenir aussi important, aussi dramatique qu'il l'a été pour les apôtres. Ce crible, ça va être dans les derniers temps. Notre Seigneur va mettre à l'épreuve pour montrer ceux qui lui sont fidèles. Et à nous de comprendre le mystère que saint Paul a voulu nous faire comprendre dans l'Épître. Il s'agit de suivre Jésus-Christ en ayant les mêmes sentiments que lui, la même vie intérieure que lui, les mêmes sentiments, sentir ce qu'il sent, vivre ce qu'il vit, aimer ce qu'il aime, refuser ce qu'il refuse. C'est cela l'amitié. La pratique de l'amitié consiste à chercher les mêmes choses que l'ami, à vouloir les mêmes choses que l'ami, à aimer les mêmes choses que l'ami, à rejeter les mêmes choses que lui, à se séparer des mêmes choses que lui. C'est cela l'amitié. Et alors l'homme n'a pas compris les sentiments du Christ Jésus. Et le Christ Jésus, parce que l'homme est charnel, va le mettre à l'épreuve pour favoriser la vie intérieure, pour favoriser les sentiments. Ainsi, nous voyons qu'il arrive dans ce monde, dans une pauvre grotte, une pauvre crèche, sur de la paille. Pourquoi cela ? Pour mettre en valeur sa divinité, pour nous obliger, pour nous passer au crible et nous obliger à aller voir au-delà des apparences. Si notre Seigneur s'était montré comme Louis XIV dans sa gloire ou comme l'empereur de Chine, nous n'aurions probablement pas fait l'effort d'aller voir ce qu'il y avait derrière la splendeur humaine. Tandis que là, il nous déconcerte, et comme il envoie en même temps le Saint-Esprit, comme il l'a fait aux rois mages et à tout le monde. Seulement seuls les rois mages, pratiquement seuls les rois mages ont voulu recevoir le Saint-Esprit. Et là encore, vous avez Hérode, le prince des prêtres, qui ont refusé le Saint-Esprit et tout en voyant ont refusé. Puis plein d'autres qui n'ont pas voulu voir. Et notre Seigneur, dans toute sa vie, même s'il fait des miracles pour aider les hommes, tout l'évangile est un évangile qui... L'évangile insiste particulièrement sur l'amour de Dieu, sur la divinité de Dieu, la divinité du Christ. L'Ancien Testament a insisté sur les souffrances de la Passion, mais dans le Nouveau Testament, elles sont très peu décrites. L'Évangile insiste très peu sur les souffrances de la Passion. Pourquoi ? Pour mettre en valeur la divinité de Jésus-Christ. Alors à nous, dans les derniers temps, de comprendre cela. Et si le bon Dieu nous prive aujourd'hui de la messe et de la communion, c'est pour les mêmes raisons qu'il a voulu paraître faible et pauvre à la crèche. C'est pour la même raison qu'il a subi la mort et après ça la résurrection. C'est pour nous faire chercher derrière les apparences, derrière ce qui se voit, derrière les signes sensibles que le sont les sacrements, nous faire chercher et désirer les sentiments qui sont ceux de Jésus-Christ et les lui demander. Et parce que le monde s'était accommodé de la dérive actuelle, de la dérive mondialiste, alors le bon Dieu envoie des petits rappels avec le confinement pour nous rappeler qu'il est le maître, pour nous rappeler que la vie ici-bas n'a pas de valeur en elle-même, qu'elle n'a de valeur que par rapport à l'éternité. Et faisons bien attention, l'Écriture sainte nous dit « Quis tat videat necadat » celui qui se tient debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Nous aussi, nous avons acclamé notre Seigneur Jésus-Christ. Supplions-le, supplions-le, au moment de l'épreuve, de ne pas faire comme Judas, ni même comme Saint-Pierre, mais d'être fidèle jusqu'au bout, comme Saint-Jean, au pied de la croix. Nous ne sommes pas plus forts que d'autres, notre force vient du Saint-Esprit. Tant que nous serons fidèles au Saint-Esprit, nous serons forts, et si nous perdions, si nous contristions le Saint-Esprit, alors nous perdrions sa force et nous tomberions comme d'autres. Et donc cette privation de sacrement dans laquelle vous êtes, mes bien chers frères, cette privation est dans le plan de Dieu, pour sa plus grande gloire à lui, pour votre plus grand honneur à vous, pour une plus grande ressemblance de Jésus-Christ en ayant les mêmes sentiments que lui. Et voilà pourquoi je diffuse aujourd'hui un office du dimanche et non pas la Sainte Messe. Parce que je ne veux pas vous mettre dans l'illusion. À distance, à travers Internet, ou la télévision, c'est pareil. Vous pouvez très bien vous unir par le sentiment à une messe qui est célébrée, mais vous ne pouvez pas dire que vous y participez. Et en tout cas, vous n'y communiez pas. Alors plutôt que d'entretenir l'illusion, je préfère vous obliger à entrer dans les sentiments de Jésus et à constater que puisque le bon Dieu vous prive de la messe, c'est qu'il vous pense assez fort pour aller chercher au-delà quels sont ses sentiments et en vivre. Demandez à la Très Sainte Vierge de vous aider à avoir les sentiments, elle qui a eu tellement les sentiments de Jésus. Elle qui sentait tellement comme Jésus, depuis le début, depuis l'Annonciation. Elle savait, elle sentait les choses. Et c'est pour ça qu'elle a été glorifiée, de même que son Fils a été glorifié. Alors demandez à la Sainte Vierge ces sentiments qui étaient les siens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.